Pour faire écho à cet esprit de libération qu'a évoqué Mélanie, je vous propose une lecture dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 34. Je vais vous lire les versets 8 à 11, puis 17 à 22. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Après que le roi Sédécias eut conclu une alliance avec le peuple de Jérusalem pour leur proclamer l'affranchissement. Cela afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, celui et celle qui était hébreu, et que personne ne tienne plus dans la servitude son frère le juif. Tous les ministres et tout le peuple qui s'étaient joints à l'alliance obéirent à l'ordre de renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite, ils revinrent sur leur décision. Ils firent revenir les esclaves et les servantes qu'ils avaient renvoyés libres et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant l'affranchissement chacun de son frère, chacun de son prochain. Voici, je proclame contre vous, oracle de l'Éternel, l'affranchissement de l'épée, de la peste et de la famine. Et je vous rendrai un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance qu'ils avaient conclue devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Les ministres de Juda et les ministres de Jérusalem, les chambellans, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda et ses ministres, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui auront le contact avec vous. Voici, je donnerai mes ordres, oracle de l'Éternel, et je les ferai revenir contre cette ville. Ils combattront contre elle, ils la prendront et la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda une désolation sans habitants. Un peu plus de douceur avec le choral 120, le choral 45. À la fin du psautier français, nous avons mis un livret de choral luthérien et nous allons chanter le choral 45, les strophes 1, 2 et 3. Éternel, nous te rendons grâce pour cette initiative de la rencontre. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, bien des textes bibliques s'interrogent sur la question de l'esclavage, et ce que les textes bibliques donnent à penser sur cette question montre un certain goût pour la liberté, déjà fortement prononcé. Ce passage du livre de Jérémie fait état de l'abolition de l'esclavage au sein de la communauté israélite, à l'époque du roi Sédécias, dont on estime le règne aux alentours du début du VIe siècle avant notre ère. Ce texte biblique ne nous dit pas quelles ont été les motivations pour promulguer une telle abolition de l'esclavage. Ce texte nous raconte plutôt la cascade d'effets que cette décision a provoqué. Et c'est cette cascade d'effets que je vous propose donc d'observer. Le premier effet, assez singulier mais assez compréhensible, c'est que les anciens propriétaires reviennent sur leur décision et forcent les esclaves, les anciens esclaves, à redevenir esclaves. Cela signifie que les hommes libres, qui ont librement choisi d'affranchir les esclaves, se rendent compte soudainement que ce n'était pas une si bonne décision que cela, et qu'il faut revenir sur cette décision. Raconter ce revirement permet de souligner que les hommes qui étaient identifiés comme étant vraiment libres ne l'étaient pas tant que cela en fait. Ils découvrent qu'ils ne peuvent pas vraiment vivre sans leurs esclaves, et qu'il va falloir retourner à la case départ. Et ce que ce texte montre, de façon assez savoureuse, je trouve, c'est que les vrais esclaves sont d'abord les propriétaires qui étaient tellement dépendants de leurs esclaves qu'ils se sont vite rendus compte que la vie était impossible sans eux. Voilà pourquoi, très probablement, ils se sont empressés de leur remettre la main dessus, de force, pour les contraindre à reprendre du service en leur faveur. Ce premier effet met en évidence un bienfait de l'abolition de l'esclavage. C'est qu'il permet de rendre vraiment libre l'ensemble des humains et pas simplement ceux qui sont identifiés comme étant esclaves. Dans ce texte biblique, comme ailleurs dans la Bible d'ailleurs, ce n'est pas le fait d'avoir besoin d'un autre que soi qui est remis en cause. De manière générale, les textes bibliques encouragent le service mutuel, considérant que nous avons besoin les uns des autres pour mener une vie bonne. Ici, le texte biblique repère le moment où il y a une perversion dans ce besoin réciproque. C'est lorsque nous devenons dépendants du rapport de domination. Que chacun ait des compétences spécifiques et que nous fassions appel à un boulanger professionnel pour avoir du bon pain, rien de plus normal et rien de plus souhaitable. Que nous ne puissions plus vivre sans avoir une brigade d'esclaves à notre botte, voilà qui pose problème. Car si nous ne pouvons pas vivre sans avoir des gens qui nous sont soumis, cela laisse entendre que nous ne pouvons pas vivre sans entretenir des rapports de domination, rapports qui, bien sûr, sont contraires à l'esprit des textes bibliques qui font la promotion d'une égale dignité entre tous les êtres. Et cette idée sera développée à la hauteur d'une fraternité universelle. Les textes bibliques récusent l'esclavage, en effet, qui pose qu'il y a d'un côté les hommes libres, qui ont tous les droits, et de l'autre, les esclaves, qui ont tous les devoirs. L'apôtre Paul ne dira pas autre chose, à l'autre bout de la Bible, en disant que la fraternité développée par le Christ Jésus conduit à ce qu'il n'y ait plus ni esclaves, ni hommes libres. Mais reconnaissons aussi que cette dynamique-là se fera progressivement. Dans notre texte biblique, il n'est question que d'abolition de l'esclavage en faveur des membres de la communauté. La deuxième chose que met en évidence ce récit, c'est que les anciens esclaves redeviennent esclaves après avoir été affranchis et sans qu'il y ait de rébellion. Je veux dire que moi, en tant que protestant, je suis assez étonné qu'ils n'aient pas beaucoup protesté. On a l'impression que pour eux, c'est normal, finalement. On leur dit « Vous êtes affranchis ?» Très bien, nous sommes libres. On leur dit « Non, 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 vous redevenez à nouveau esclaves. » Très bien, nous sommes à nouveau esclaves. C'est quand même assez intriguant, cette affaire. Comment se fait-il que les affranchis n'aient pas fait valoir leurs nouveaux droits ? Pas de manifestation, pas de grève de la faim, on ne casse pas les outils de travail. Comment se fait-il que le pouvoir de domination ait pu fonctionner si facilement ? Eh bien, c'est cela que le texte biblique nous met sous les yeux, non pas pour décortiquer les mécanismes, mais pour nous rendre attentifs qu'il y a de tels mécanismes qui rendent les gens esclaves, même lorsque les chaînes ont été rompues, même lorsque leur statut administratif a été modifié. Un esclavage sournois, insidieux. La deuxième chose que ce récit met en évidence, c'est qu'il est un esclavage sournois qui consiste à ne pas informer les individus de leurs droits. Maintenir quelqu'un dans l'ignorance, voilà un véritable mécanisme d'esclavagisme. Parce qu'en maintenant quelqu'un dans l'ignorance, on s'assure qu'il ne sera pas totalement libre de pouvoir exercer la plénitude de ses capacités et notamment de ses droits. Oui, il est des esclavages sournois qui s'élaborent insidieusement, sans se dire, mais qui sont redoutablement efficaces et qui s'appuient notamment sur la rétention d'informations. Quand on ne connaît pas ses droits, il y a peu de chances qu'on se batte pour les défendre. Quand on ne sait pas qu'on est autorisé à être heureux, il y a peu de chances qu'on se révolte contre le malheur. Quand on ne sait pas que nous avons de la valeur, il y a peu de chances que nous osions nous exprimer à la face du monde. Ce qui est révoltant dans ce texte, c'est que les nouveaux hommes libres soient en fait restés esclaves. Esclaves des représentations sociales auxquelles ils avaient été habitués. Car voilà bien le cœur du problème, l'habitude, l'éducation. La façon dont se forge notre compréhension de la vie et qui tient principalement à ce que nous avons vu et à ce que nous avons entendu. Car il n'y a pas de génération spontanée de l'éthique. La grâce n'est pas quelque chose qui nous tomberait comme ça, tout droit du ciel, et qui nous dirait « maintenant, tu peux y aller ». Les choses se font par médiation, par incarnation. Les relations que nous avons avec autrui dépendent principalement des relations que nous avons observées dans nos lieux de vie, à commencer par la famille, puis l'école, notre lieu de travail, nos lieux de loisirs, notre église. Si nous n'avons pas connu autre chose que le contexte familial, eh bien nous serons totalement imprégnés de ce qui a été vécu dans cette famille, pour le meilleur et parfois pour le pire. Des parents violents rendent la violence légitime dans les rapports humains. Attribuer les tâches ménagères aux seuls éléments féminins de la famille rend légitime le caractère sexiste de ces tâches. Être privé de parole ou de reconnaissance nous fait croire que notre parole ne vaut rien et que de manière générale, nous n'avons pas beaucoup de valeur. Et c'est là que la religion biblique pose un pied et change la donne. La religion biblique qui, nous le savons, insiste sur la dimension de révélation, a notamment pour fonction de révéler ce qui est vraiment constitutif de l'être humain, de notre humanité. Je dirais qu'un point fort de la religion biblique est de travailler sur les stéréotypes pour proposer de nouvelles manières d'être. La religion biblique envisage une succession de ruptures. Et parmi ces ruptures, des ruptures avec des habitudes bien ancrées qui contredisent l'idée fondamentale que les textes bibliques se font de l'être humain et plus particulièrement de sa vocation à être libre. Les textes bibliques ont comme caractéristique de lutter contre la rétention d'informations. Vous voyez, par exemple, on reproche parfois aux textes bibliques d'être pluriels, de porter en son sein des contradictions, des tensions, des paradoxes. Eh bien, cela signifie bien que les rédacteurs bibliques, puis les croyants qui ont constitué la liste des livres bibliques, ont eu à cœur de ne pas faire de censure qui garderait sous le silence des textes peut-être un peu subversifs. Des textes qui remettent en cause les habitudes. Des textes qui brisent les stéréotypes et les conventions. Les textes bibliques, dans leur écriture, dans leur composition et dans la liste qu'ils forment, constituent un véritable principe de révélation pour rompre avec les habitudes qui empêchent l'humanité d'être libre, vraiment libre, pour reprendre le cantique que Martin Luther King ne manquait pas de fredonner. Les textes bibliques vont par exemple remettre en cause le droit d'aînesse, qui donnerait une priorité au biologique et au chronologique. Ils vont remettre en cause les sacrifices humains qui font de Dieu un être sanguinaire. Ils vont remettre en cause la valeur supérieure du travail, de la race, de l'argent. Ils vont remettre en cause l'idée qu'il y aurait un destin écrit à l'avance. Ils vont remettre en cause le lien mécanique entre faute morale et maladie. Ils vont remettre en cause l'esclavage comme structure fondamentale d'une société. Bien d'autres ruptures sont engagées par les textes bibliques. Les textes bibliques ouvrent notre conscience à d'autres manières d'envisager la vie, d'envisager le relationnel, d'envisager la valeur spécifique des choses, des situations, pour que nous ne soyons pas les esclaves d'une pensée unique qui nous aurait été inculquée et qui nous empêcherait d'être un individu capable de faire des choix personnels, de les assumer et au final d'être vraiment libre. Voilà le deuxième enseignement que le texte biblique nous propose en racontant les effets de cette abolition un peu avortée. Après avoir dénoncé les rapports de domination et de servitude, après avoir mis en évidence l'esclavage provoqué par la rétention d'informations, notre texte envisage un mode relationnel évangélique qui pourrait être notre source d'inspiration au quotidien. Le texte biblique ne se contente pas de casser les idoles, de déconstruire ce qui doit l'être, il nous propose aussi une façon d'être ensemble. Et ce mode relationnel, c'est l'alliance, un thème biblique bien connu, mais sur lequel nous pouvons revenir. C'est une alliance que le roi Sédécias a conclue avec le peuple, et c'est cette alliance qui va être évoquée au moment de solder cet épisode biblique. Ce qui est intéressant dans ce texte, et notamment dans la fin de ce texte, c'est qu'il nous rappelle comment fonctionne une alliance dans le Proche-Orient ancien. C'est assez étonnant, et nous aurions du mal à faire de même aujourd'hui, car tout commence par le fait que les deux parties qui ont envie de conclure une alliance, de faire contrat, après s'être entendues sur les termes, découpent un animal en deux. Et on sépare les deux moitiés. Puis, les deux parties traversent cet espace créé par les deux moitiés d'animaux. C'est un rite imprécatoire. L'idée est la suivante. Si l'un des deux enfreint l'alliance, ne respecte pas les termes, alors il finira comme cet animal découpé en deux. C'est un rite imprécatoire. Ce rite avait pour fonction, bien sûr, d'encourager les partenaires de l'alliance à la respecter en leur faisant peur, mais il y a plus que cela. En coupant les animaux en deux et en les séparant, on crée un espace de vie. Et c'était une façon aussi de dire que l'alliance permettait de créer un nouvel espace commun. Et ce que nous traduisons souvent par conclure une alliance se dit en hébreu couper une alliance. Et c'est dans cet entre-deux qu'une vie est possible. Autrement dit, le principe même de l'alliance est un rite qui engage les partenaires de l'alliance à entrer dans une communion au sein d'un nouvel espace. C'est un peu un rite de création, car si nous lisons Genèse 1, nous voyons que la création se fait par séparation et par habitation du nouveau lieu créé. L'avantage de ce rite, c'est qu'il met tout le monde à égalité. Chacun est vraiment libre, puisqu'il est déclaré responsable de ce qui va arriver. Si tu ne respectes pas l'alliance qui a été conclue, eh bien, tu en tireras certaines conséquences. Cela signifie que l'homme est réputé responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Et cela est intéressant, parce qu'envisager que l'alliance puisse être non respectée, qu'il puisse y avoir une infraction, eh bien, rend chaque partenaire vraiment libre. Car c'est à la condition de pouvoir échouer que nous sommes vraiment libres de pouvoir réussir. En envisageant ce qui se passera, si l'un des deux ne respecte pas les termes du contrat, le rite pose que chacun agit en ayant la capacité d'assumer ses actes, d'être responsable. Et voilà qui est vraiment intéressant. Parce qu'évidemment, dans le rapport de domination d'homme libre à esclave, on n'envisage pas que l'esclave puisse être libre de réussir ou non. L'esclave doit faire ce qu'on lui demande de faire. Mais il ne peut pas être libre d'échouer. Il ne peut pas être libre non plus de pouvoir faire mieux que ce qu'on lui demande. Il est juste dans un rapport d'exécution. Et ce que je retiens dans ce texte de Jérémie, c'est qu'il y a ce développement de tout ce qui va arriver au peuple hébreu maintenant qu'il a enfreint l'Alliance. Cela nous donne évidemment l'idée d'un Dieu comptable qui solde en remboursant à la hauteur du crime ou de la faute commise. Mais peut-être pouvons-nous entendre ce texte d'une autre manière. Oui, Jérémie en vient à dire quelles vont être les sanctions appliquées à ceux qui n'ont pas respecté l'Alliance et qui ont remis la main sur les anciens esclaves contrairement à ce qui avait été conclu. Et peut-être l'Éternel apparaît-il sous les traits d'un justicier comptable qui va rendre à chacun en fonction de ses fautes. Mais j'aimerais que nous l'entendions comme le récit utile pour mettre en évidence la responsabilité des personnes plutôt que pour dire précisément ce qui va arriver à ceux qui ont enfreint l'Alliance. Et pour bien comprendre cela, soyons attentifs au verset 17 qui inaugure la liste des sanctions. Cela commence en disant que l'Éternel va affranchir l'épée, la peste et la famine. L'Éternel va affranchir l'épée, la peste et la famine. Je trouve qu'ici, le rédacteur biblique pense la justice dans des termes qui sont assez proches de ce qu'écriront plus tard, je ne fais pas d'anachronisme, de ce qu'écriront plus tard les théologiens du process lorsqu'ils réfléchiront à la question de la justice divine. En agissant contre les libertés des esclaves, les fautifs ont agressé le principe de liberté. Ils ont fait souffrir la liberté. Ils ont blessé la liberté. Autant d'images pour dire qu'ils ont perturbé les relations interpersonnelles au lieu de promouvoir la liberté, au lieu de permettre à chacun un plein épanouissement. Autrement dit, le peuple hébreu était face à un défi, libérer véritablement les esclaves et leur permettre de pouvoir exercer toutes leurs capacités. Les Hébreux n'ont pas relevé ce défi. Ils ont maintenu les esclaves dans le statut d'esclaves au lieu de leur permettre d'être libres et donc d'être libres notamment de faire mieux que ce que les maîtres leur demandaient de faire. Et ce que le rédacteur biblique fait, c'est de montrer les prolongements du comportement des Hébreux. En libérant les forces de domination, en libérant le pouvoir de contrainte, les fautifs ont atrophié une partie de l'humanité. Ce qui peut se dire par le fait qu'ont été libérées l'épée, la peste et la famine, autant de choses qui réduisent l'humanité. Autant de fléaux qui réduisent l'humanité. Réduire quelqu'un en esclavage, eh bien le texte biblique dit que cela revient à brider sa capacité d'initiative. C'est entraver ses possibilités d'évolution. C'est empêcher sa libre implication dans les affaires du monde. C'est donc se priver d'une personne capable d'améliorer notre quotidien. Et c'est cela que le texte de Jérémie met en évidence. En refusant la libération des esclaves, les Hébreux se sont privés d'avoir de nouveaux partenaires qui auraient pu leur permettre de hisser leur niveau d'existence. Les fautifs s'infligent donc eux-mêmes la conséquence de leur faute, et cela le plus souvent sans en avoir conscience. Et c'est pour cela que la révélation est décisive. C'est qu'elle est aussi révélation pour ceux qui ont bonne conscience, abusivement. Voilà ce que révèle le texte biblique, en rapportant à Dieu ce qui pourrait apparaître comme une rétribution et qui est bien plutôt une révélation. Le texte biblique révèle ce que produisent les différents comportements que nous pouvons avoir pour que nous prenions conscience des implications. Et vous voyez, cela suscite une éthique qui n'est pas une éthique de principe, mais une éthique qui est vraiment une éthique de responsabilité, parce qu'elle s'intéresse aux effets produits par ce que nous faisons, disons, pensons ou vivons. Le texte biblique révèle ce que produisent les différents comportements pour que nous prenions conscience des implications de notre éthique personnelle. Le texte biblique met les comportements en perspective pour nous révéler ce que produisent nos convictions et peut-être pour nous aider à en changer, peut-être pour nous aider à les réformer, peut-être pour nous aider à les ajuster et à les rendre en fait plus conformes à l'esprit de l'Évangile. Voyez, c'est en nous offrant cette connaissance que le texte biblique nous rend vraiment libres. Libres de développer une éthique personnelle en connaissance non pas de cause, mais d'effet. Amen. Je vous propose...